d'être dupe et de conformer sa vie à ce qu'il avait appris d'elle, qu'elle ne pouvait être, à l'instar de toutes les autres, que solitaire. Dans l'un de ses rares moments d'abandon, son père lui avait dit « Quelqu'un qu'on aime meurt. On est rendu à une solitude de bête sauvage qui est notre essence, et que dans les temps ordinaires nous n'avons pas trop de toute la vie pour oublier. » Il était alors très jeune. Avant qu'il ait rien connu, cette phrase avait décidé de sa vie, bien au-delà de ce que son père aurait souhaité, qui sans doute aurait regretté ces paroles prononcées dans un instant d'abandon s'il avait pu soupçonner leur influence. Les exemples et les conseils se fondent, pour la plupart, dans le gris du passé, mais ces phrases de hasard demeurent. Augustin, se demandant pourquoi, bien plus tard, pensa qu'elles demeuraient précisément en raison de leur caractère de phrase de circonstance, et que c'était par leur gratuité qu'elles rendaient à la vérité un témoignage plus pur qui empêchait de les oublier. Elle aima qu'il eut peur. Qu'un homme de cette trempe, vécu seul, lui semblait l'indice de l'une de ces faiblesses que les femmes recherchent. Elle se moquait de lui. À un bal costumé en l'honneur des voyages, elle lui fit revêtir un costume de sauvage, pendant qu'elle s'habillait d'une robe de papier taillée dans de grandes cartes des Indes. Il étonna, elle fit scandale. Ce soir-là, elle lui trouva l'air d'un enfant perdu et l'entoura davantage. Pour lui, tout bascula d'un coup dans un chemin creux du printemps, en la voyant attacher son cheval à un orme. Elle montait en amazone et portait une robe de velours gris-vert au poignet noir. Il trouva la force d'oublier et d'aller vers elle, non pas seulement de se laisser rouler par le flot, mais de renverser les barrières, les obstacles, de vouloir. Il découvrit progressivement qu'il avait cessé d'être seul, et en conçut de la douleur, mais une douleur si tranquille, qu'il s'attacha plus à elle. Ainsi le moment était venu de rompre les amarres. Il s'interrogea un peu quand il la vit sur le point de tromper le général. Quant à elle, qu'il fût un amant si rapide ne l'empêcha pas de l'aimer. Jamais sans elle il n'aurait transformé son parc ou sa maison. Il ne s'y trompa point, et lorsque l'envie le prit d'arranger d'abord l'extérieur, il en rejeta toute la responsabilité sur Marie-Antoinette. Non qu'elle eût prétendu changer l'ordre délabré des choses, ou même seulement suggérer quelque aménagement nouveau. Pour elle, ce décor abandonné, ces pièces vacantes convenaient à merveille à Augustin. Elle aimait le voir remplir de toute son énergie ces lieux vides offerts au passé. Ce fut lui au contraire qui se laissa gagner. C'était comme si l'image, chaque jour plus impérieuse de Marie-Antoinette avait réclamé son dû, et que par amour pour elle chaque endroit où elle venait dut être converti à sa manière, et porté après chacun de ses passages, et peut-être même à jamais si elle devait cesser un jour de s'y rendre, sa trace ineffaçable. Le souvenir de la maison directoire où il l'avait connue, sans qu'il s'en aperçût toujours, lui servait de guide. Les meubles de camp et de fortune en acajou, les lampes de l'Empire à éclairer les tentes, les lits à la grecque et le vélin retroussé des rideaux, c'était son style. Il ne s'était pas jusque-là soucié de ces choses. Il découvrit qu'elle n'était pas simplement commode, résumant une époque sceptique mais où s'échafaudaient de grands desseins, une époque de plaisir et d'attente et d'orage suspendu, entre les rois et l'empereur. Pour cette raison peut-être, seuls ces meubles-là l'intéressèrent au mobilier. Par la suite, il ne devait jamais varier dans ses goûts, au contraire de ces amateurs qui entraient en peinture par la grâce de Giotto ou Bellini finissent en sectateurs de Delacroix. Que Marie-Antoinette s'entoura de tant d'objets virils aux formes simples, si éloignés de l'ancien esprit français, et où passait déjà un peu du souvenir de Rome l'étonna et le conquit. Par la suite, il devait naturellement se demander ce qui de l'estime ou de l'amour l'avait emporté dans les sentiments qu'il avait eus pour elle, et plus précisément s'il l'avait aimé pour ses goûts ou si son amour l'avait conduit à adopter ceci, comme on aborde en heureuse compagnie un rivage inconnu. Le voyant changer ainsi, Marie-Antoinette fut moins discrète. Elle donna quelques conseils. Puis ils s'amusèrent à dresser des plans, à se bâtir un monde à eux. D'un beau mouvement ensemble, ils oublièrent toute prudence. Après quelques semaines, Augustin avait redessiné à l'identique les allées du parc et fait abattre les arbres les plus vieux. dégagé d'un épais fourré de broussailles, le temple de Cnide, lui dit-elle, rappelait Stourhead ou Hermenonville. Elle connaissait tous les jardins, Kew, Grousset et Chèvreloupe, avec une préférence pour ceux où les espèces sont rangées dans un souci utilitaire, sans trop d'esthétique apparente. Bien nettoyée, entièrement vide, la serre du potager lui plut. Du potager lui-même, il ne restait que 6 grands carrés de terre bordés par des poiriers courant sur des espaliers. Elle décida Augustin à le transformer en jardin floral, et ils s'interrogèrent sur les fleurs à planter. Les poiriers n'avaient pas été taillés depuis longtemps, les branches fines et cassantes au bout montaient très haut, il faudrait les couper au nœud l'an prochain après la sève. Ils sourirent de s'être ainsi projetés dans le futur, Marie-Antoinette fit venir un sourcier. Elle se désolait de n'avoir pas assez d'eau chez elle. À Bussy, on comptait une fontaine et 2 puits. C'était peut-être suffisant pour ajouter au bassin rond du devant une pièce d'eau rectangulaire quelque part. Elle avait eu l'idée d'une charmille, ainsi pourrait-on de la maison rejoindre le chemin de ronde autour du parc par une allée rectiligne enfouie sous le feuillage, rythmée peut-être par des statues. Augustin se refusait aux statues. Il parlait d'écorché et Marie-Antoinette poussait des cris. Mais si souriait-il, un parc anatomique semé d'écorchés.